Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, édition spéciale.
Yves Calvi, le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
C'est donc un peu après 23h hier soir que le communiqué officiel est tombé annonçant le décès de Valéry Giscard d'Estaing.
Un peu plus d'un an après la mort de Jacques Chirac, c'est un autre président qui disparaît. VGE, trois lettres, 7 ans de mandat qui ont en partie transformé la société française. Nous allons y revenir, mais prenons d'abord la direction d'Auton dans le Loir-et-Cher, où on vous retrouve, Sinamir. Bonjour.
Bonjour.
C'est là, dans sa maison de campagne, que l'ancien président s'est éteint hier soir entouré des siens.
Oui, au milieu de ses champs, de ses clochers, cette France des terroirs qu'il n'avait d'ailleurs jamais mise en avant sur ses affiches de campagne en 74 ou 81, contrairement à François Mitterrand. Un domaine familial reculé, au milieu d'un parc de 700 hectares, où l'ancien président s'est éteint hier dans la plus stricte intimité. Ce matin, dans la brume, finalement, deux voitures de gendarmes et quelques quarts de télévision devant l'entrée du château des Giscard d'Estaing permettent pour l'instant de comprendre ce qu'il se passe autour de ce petit village de 700 habitants. Pas encore de bougies, pas de fleurs, pas de mots déposés pour l'ancien président devant la grille de fer forgé. On ne sait pas encore non plus si Emmanuel Macron traversera ces bois pour présenter ses hommages à la famille dans les heures à venir. En revanche, c'est ici, là où il avait épousé Anémone dans les années 50, que devraient se dérouler à l'abri des regards dans les jours à venir les obsèques de l'ancien président. À côté de ce domaine de l'Étoile, où il avait tenté de se protéger depuis le printemps de la Covid-19, virus qui l'aura finalement affaibli au point de l'emporter hier.
Merci Sinamir depuis le Loir-et-Cher pour RTL.
J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement. Vous ne serez pas déçus, car c'est bien le changement que je conduirai avec vous.
Extrait de son investiture le 27 mai 1974. La modernité, le changement, cette volonté de dépoussiérer la politique et la France, c'était la promesse du septennat Giscard.
Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
Cet héritage, on le mesure encore aujourd'hui avec certaines réformes emblématiques qui ont considérablement modifié la société française.
Eh bien oui, les années Giscard, c'est la majorité à 18 ans au lieu de 21 ans jusque-là. C'est plus d'indépendance pour les femmes avec le remboursement de la contraception et la possibilité d'interrompre une grossesse légalement à l'hôpital, de même que le divorce par consentement mutuel. Quant aux jeunes, ils sont majeurs dès 18 ans et plus à 21. VGE allège aussi la mainmise du pouvoir sur les ondes en supprimant l'ORTF pour créer plusieurs chaînes. Il donne aux parlementaires la possibilité de contester une loi devant le Conseil constitutionnel.
Sur la forme aussi, Marie-Bénédicte, il y a une volonté de moderniser l'image du président.
Oui, avec sa remontée des Champs-Élysées à pied au milieu de la foule, sa photo officielle avec un drapeau français stylisé, mais aussi cette volonté de se rapprocher des Français à qui il s'adresse régulièrement au coin du feu. Il joue de l'accordéon au Noël de l'Élysée, fait venir des éboueurs au palais pour prendre le petit déjeuner, s'invite à dîner chez des Français moyens, comme on dit, dévale les pistes de ski touchous ou se laisse photographier en maillot de bain.
Un septennat marqué aussi par la crise. La crise, c'est le premier président qui a dû affronter la première grande crise économique après 30 ans de croissance ininterrompue.
Oui, parce que la France est frappée par le deuxième choc pétrolier. Le carburant augmente de 130% en un an. L'inflation est galopante. La situation sociale se tend. Mais pour y répondre, VGE décide d'une politique de rigueur. Elle sera incarnée par l'économiste Raymond Barre, qui succède à Jacques Chirac à l'été 76. C'est le début de ce qu'on appelle le chômage de masse. Et puis, il y a les affaires dont il ne se remettra jamais, notamment l'affaire des diamants de Bokassa. C'est ce qui lui vaudra probablement d'être battu en mai 1981.
Le 10 mai 1981, victoire de François Mitterrand. Il aura d'ailleurs du mal à digérer la gifle de cette défaite et ne parviendra jamais à revenir malgré plusieurs tentatives. Il en gardera d'ailleurs une blessure.
Je crois que c'est tout à coup les Français ont dit... C'est trop long, il faut changer. C'est trop long, on va essayer autre chose. Là, pour le coup, c'est une nostalgie, c'est un regret.
Un dernier mot, Marie-Bénédicte, sur l'homme, sur son image. Vous évoquiez, il y a quelques secondes, les vacances au ski cette saison. Écoutez cet extrait d'un reportage de l'époque.
Pour la petite histoire, la famille Giscard d'Estaing a déjeuné dans un restaurant d'altitude hier midi. Au menu, jambon de pays, salade de pissenlit et tarte aux myrtilles. Il reste un peu moins d'une semaine au président pour perfectionner son style et surtout se détendre en famille, si possible, sans témoin.
Sans témoin, mais avec des caméras, ça fait partie de cette image d'un président moderne, sportif, qu'il veut donner. Séducteur également, Valéry Folamour. On va s'arrêter quelques secondes sur ce surnom que lui avait donné le canard enchaîné. Expliquez-nous.
Oui, parce que Valéry Giscard d'Estaing est un homme qui aime séduire, un homme séduisant. À l'époque, les conquêtes d'un président font partie du domaine du tabou. Mais on raconte que parfois, au petit matin, on a cherché le président sans savoir où il était. Et VGE lui-même aime qu'on le dépeigne ainsi, puisqu'il ne se prive pas de s'attribuer une romance avec la princesse Diana. dans un roman écrit après son départ de l'Élysée, La princesse et le président, fiction ou réalité ? C'est son secret.
Merci Marie-Bénédicte Allaire.
VGE, c'est aussi une volonté d'accélérer le rôle de la France au niveau international. Il considère que la France est une puissance et qu'elle doit le rester.
C'est lui qui, notamment, va créer les G7, les réunions entre grands pays industrialisés, qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Mais c'est surtout au niveau européen que l'avancée est décisive. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
Le couple franco-allemand, cette expression qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, elle date de l'époque Giscard.
Oui, c'est le fruit de cette étroite relation entre Giscard d'Estaing et le chancelier allemand Helmut Schmidt. Et cette proximité, elle va doper, elle va accélérer la construction européenne. VGE crée le Conseil européen. Il est à l'origine du suffrage universel pour le Parlement de Strasbourg, des institutions indispensables, selon lui, à la poursuite du rêve européen. C'est ce qu'il dit en 1977.
Ces institutions sont désormais complètes. Il faut maintenant les utiliser pour faire avancer l'Europe. Tous nos grands conquérants ont rêvé de faire l'Europe. C'est nous qui réaliserons leur rêve en donnant l'impulsion de la France à la nécessaire Confédération de l'Europe.
Puis il va créer le système monétaire européen, base économique d'une future monnaie unique. Enfin, ultime défi, il rédige le projet de constitution européenne en 2005. Il se verrait bien d'ailleurs en premier président de l'Union. Mais le non au référendum en France met fin à son ultime ambition.
Merci Brice Dugénie.
Nous allons continuer ce matin d'évoquer la disparition de Valéry Giscard d'Estaing, mort hier donc à l'âge de 94 ans. Matinale spéciale sur RTL. Dans un instant, le reste de l'actualité, et c'est aussi un événement ce matin. Gérald Darmanin, invité d'RTL, séquence mouvementée pour le ministre de l'Intérieur. On y revient dans quelques instants. Il sera par ailleurs l'invité d'Alba Ventura à 7h40.
RTL Matin.
Certes, 7h09 sur RTL, la suite du journal de Dominique Tenza. À 7h40 tout à l'heure, il sera l'invité exceptionnel d'Alba Ventura, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sous pression après les polémiques récentes sur le fonctionnement de la police.
Et parmi les mesures envisagées pour tenter d'apaiser la situation, du changement à la tête de l'IGPN, la police des polices, chargée de mener les enquêtes, est soupçonnée de ne pas être toujours impartiale. Une personnalité indépendante pourrait prendre la tête de l'institution. Le Premier ministre Jean Castex l'a lui-même évoqué. Une mesure, Alice Moreno, qui est loin de faire l'unanimité.
Oui, pour les forces de l'ordre, seul un professionnel de la maison est apte à diriger l'inspection, nommé un indépendant. Ce serait un message de défiance envoyé à l'institution, selon Frédéric Lagache, délégué général du syndicat Alliance.
C'est laissé sous-entendre par ailleurs que l'IGPN aurait tendance à minimiser, voire à cacher les affaires. Autant dire que tout ça est une vue de l'esprit. Le gouvernement n'agit que sur pression politique et médiatique.
Pour lui, il y a d'autres priorités. Renforcer la formation des policiers, par exemple. Une piste de travail qui est d'ailleurs envisagée par l'Intérieur. S'en tenir à un simple changement de tête à l'IGPN ne convainc pas davantage l'avocat Arié Halimi, membre de la Ligue des droits de l'homme.
Changer de tête ne servira à rien. Le problème structurel de l'IGPN, c'est que c'est la police qui enquête sur la police. Il faut qu'on se dise qu'on doit aller vers une autorité judiciaire indépendante.
Il plébiscite le modèle à l'anglaise où aucun enquêteur de l'inspection des forces de l'ordre n'est issu des rangs de la police.
Alice Moreno.
Le football, pour terminer, il faut croire que la pression a réussi aux Parisiens, vainqueurs hier. 3-1 sur la pelouse de Manchester.
Paris qui frôlait l'élimination avant le début du match, on en parlait hier matin, se rapproche du coup des qualifications pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Quel retournement de situation, qui l'eût cru, Philippe Sanfourche?
Non, la bête n'est pas morte. Il voulait retrouver l'esprit de Lisbonne et la finale de Ligue des Champions que les patrons du vestiaire justifient leur statut. Neymar, buteur et créateur, rappelle ainsi que dans les grands matchs, c'est lui le détonateur et que le taulier brassard au bras se nomme plus que jamais Marquinhos au micro du groupe Altice.
Ouais, celle-là, elle est très bien, elle fait du bien pour l'équipe, faire du bien pour la confiance. Et on est dans la compétition, on est très heureux, il fallait ces 3 points ici, on savait que ça a été très important.
Pour la fin de saison et pour l'avenir de Thomas Tuchel, le coach que les joueurs n'ont pas voulu lâcher.
Nous sommes ensemble et j'ai fait des erreurs, mais je ne vais jamais arrêter de pousser cette équipe et je suis fier de mon équipe, je suis très heureux. En même temps, je suis très vigilant.
Car les joueurs sont exténués, certains quand même Mbappé peinent à retrouver leur niveau. Et si ce matin les Parisiens savourent, tous savent que la saison sera jusqu'au bout un combat de tous les jours.
Philippe Sanfourche. Et puis fin de l'aventure européenne en revanche pour Rennes, battu 1-0 par les Russes de Krasnodar.
Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Vincennes, Dominique.
Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 6, le 5, le 3, le 10, le 7, le 2, Le 9, hélas, la dernière minute, c'est le 10. Eric, The Hill.
C'était le journal de...